France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les parents de Vincent Lambert veulent déposer de nouveaux recours aujourd'hui pour tenter de maintenir leur fils en vie. La procédure d'interruption des traitements de Vincent Lambert doit commencer ce lundi au CHU de Reims. Le patient, rappelons-le, est tétraplégique en état végétatif depuis près de 10 ans maintenant. Hier, près de 200 personnes ont manifesté contre l'arrêt des traitements. Les parents de Vincent Lambert ont également reçu le soutien de la tête de liste du parti Les Républicains aux élections européennes. Selon François-Xavier Bellamy, le président Emmanuel Macron devrait intervenir dans cette affaire. Il se mobilise contre la loi orientation des mobilités et contre la réforme du permis de conduire. 5 syndicats de taxis, d'auto-écoles et d'ambulanciers appellent à manifester aujourd'hui à Paris, mais également Toulouse, Dijon, Strasbourg. Ils protestent notamment contre la baisse du prix du permis de conduire au détriment de la formation. Ils protestent aussi contre la souplesse accordée aux VTC, les véhicules avec chauffeur, dans la loi orientation des mobilités. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, saisit la justice après la diffusion d'un clip de rap polémique sur la France. Un clip de Nick Conrad qui a été récemment condamné d'ailleurs pour un précédent morceau. Les Suisses veulent durcir l'acquisition de certaines armes dans leur pays. Ils ont approuvé hier par référendum une loi qui met le pays en conformité avec des mesures antiterroristes dans l'Union européenne. En bref, encore Donald Trump, il persiste et signe dans le dossier iranien. Le président américain menace encore la République islamique de destruction, et ce en cas d'attaque contre des intérêts américains. Depuis une dizaine de jours maintenant, les tensions entre Washington et Téhéran se sont exacerbées, les États-Unis invoquant une menace iranienne dans le Golfe en ce moment. Et puis, malgré 7 nominations, il n'avait jamais été récompensé à Cannes. C'est désormais chose faite. Alain Delon, en larmes hier soir, a reçu une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Une récompense malgré les accusations de militantes féministes qui reprochent à l'acteur d'être raciste, homophobe et misogyne.
Notre-Dame de Paris, un roman cathédral. Publié en 1831, le chef-d'œuvre de Victor Hugo a pour personnage principal un monument. La Bibliothèque nationale de France et France Culture vous invitent à une nuit littéraire vendredi 24 mai en ouverture du festival La Bibliothèque parlante. Présentation du manuscrit, lecture par Charles Berling, projection monumentale, émission et diffusion d'un feuilleton radiophonique avec Michel Bouquet. Notre-Dame de Paris, monument littéraire, le 24 mai de 19h à 22h en direct et en public de la BNF et jusqu'au bout de la nuit sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr.
Et pour bien commencer la semaine sur France Culture à 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, mon invité ce matin est écrivain, réalisateur et historien du cinéma. Et en sa qualité d'historien du cinéma, il lui arrive de sillonner le pays pour présenter des grands classiques. Il lui arrive aussi de présenter ses propres films. Noël Herpe est mon invité. Le titre de son ouvrage édité chez Bartilla, c'est « Souvenirs écrans, voyage en France en 2017-2018 ». On en parle dans un instant.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Mais avant d'en parler, bonjour Noël Herpe.
Bonjour.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment l'antidote du festival de Cannes.
Oui, oui, j'aime bien ce concept. C'était pas concerté. Bah, c'est d'autant plus drôle que j'ai été conseiller de Gilles Jacob pendant des années, donc je connais le festival de Cannes de l'intérieur assez bien quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu un livre d'adieu à la cinéphilie aussi, une certaine cinéphilie obsessionnelle qui a pu me caractériser, comme pas mal de gens de ma génération. Et le cinéma s'éloigne, hein. On a dit jadis, Barrès s'éloigne. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt le cinéma qui s'éloigne un peu en tant qu'entité mystérieuse, magique, quand l'aura du cinéma, disons, s'éloigne pour devenir quelque chose de peut-être plus diffus, plus banal, plus internaute. Voilà, et les étudiants ne regardent plus que des séries, il n'y a plus beaucoup de gens dans les salles pour voir des films de Clouzot. Je me promène dans ce livre un peu comme le fantôme de la cinéphilie qui a été la mienne et que j'essaie quand même de ranimer avec l'aide de quelques Don Quichotte des cinémas de région qui continuent d'entretenir la flamme, souvent des associations.
Et qui vous invite.
Qui m'invite.
Et vous racontez ces voyages, hein. Mais quand je dis que vous racontez ces voyages, c'est-à-dire que vous passez plus de temps à raconter les voyages collèges, les villages, les quartiers, les banlieues, les petites villes qui vous accueillent plutôt que les films que vous commentez, que vous analysez, que vous présentez.
C'est pas un livre sur le cinéma, à vrai dire. C'est un livre sur, encore une fois...
Comment le cinéma vous a permis de connaître en profondeur ce pays, peut-être ?
Oui, disons, j'ai l'impression que je suis un peu là, un peu détaché de moi-même, un peu détaché d'un certain nombre de passions qui ont pu m'animer. Je pense que c'est dans ce détachement que je retrouve une certaine poésie un peu paradoxale, la poésie des terrains vagues, la poésie des espaces déserts. Je pense qu'il faut parfois faire un peu l'expérience du délaissement et même d'un certain néant pour arriver à donner un coup de talon et à retrouver une certaine vitalité. C'est un paradoxe. Je termine le livre comme ça, dans une espèce de terrain vague de banlieue, à côté de Pantin, c'est pas très loin de Paris. Là, je reviens vers Paris, mais c'est toujours un peu la banlieue, les paysages délaissés, et j'y trouve une espèce d'épiphanie un peu presque mystique. Je pense que voilà, ce livre est pour moi un peu une expérience de la désolation et en même temps de la drôlerie, parce que je crois que le livre est assez drôle et je m'amuse de ce côté fantomatique d'une France qui est pas simplement la France cinéphile, qui est aussi la France d'aujourd'hui, hein, un pays où il y a plus beaucoup de désirs, où les restaurants ferment à 8h du soir, où on vous met dehors des chambres d'hôtel à 9h du matin, où vous avez l'impression que c'est un pays où il y a plus beaucoup de flammes, la France, quand même.
Ah, il y a quand même quelques braves résistants qui continuent à projeter des films d'auteurs dans des bleds reculés, on peut le dire, aussi, ça nous a l'air. C'est ça, d'ailleurs, le thème de votre livre Souvenir Écran. Ce sont vos voyages en France, en 2017, en 2018. En tant que commissaire de l'exposition Clouzot à la Cinémathèque française, vous avez été amené à accompagner ces plus grands films, la projection de ces plus grands films dans toutes les salles de France. D'art et d'essai, vous avez donc sillonné une quarantaine de villes.
Oui, tout à fait. Non, quand je dis qu'il n'y a plus de flammes, il y en a, il y a sur des foyers. Cette cinéphilie un peu passée de mode en éteint, et je pense faire partie de ces Don Quichotte qui continuent à croire à des valeurs du passé qu'on nous a transmises, mais je ne veux pas non plus m'installer dans une attitude passéiste. Je pense qu'il y a un mélange un peu de mélancolie et d'humour dans tout ça, et dans le fait de continuer à exister dans les ruines. Hein. C'est un peu mon parcours, et il me semble que par rapport à mes précédents livres, je vais un peu de plus en plus loin dans cette tension entre le passé et le présent. Dans ce voyage dans la France profonde, il y a la recherche de mes propres, je n'aime pas trop le mot de racine, mais de mes propres origines familiales, de mon histoire familiale, qui est un peu un puzzle en morceaux. Je viens d'une famille de bourgeoisie désargentée, mon père et ma mère se sont séparés assez tôt, je suis finalement l'enfant d'une bourgeoisie déchue, et en même temps j'ai besoin, comme ça, j'ai toujours eu besoin d'ailleurs, de recoller les morceaux de mon passé, de croire que j'avais malgré tout un passé prestigieux. Alors je vais là, je profite de cette tournée en province que j'ai faite l'an dernier sous le signe de Clouzot, j'en profite non seulement pour retrouver des traces de films de Clouzot, d'ailleurs, par exemple à Niort, sa ville natale, mais aussi pour retrouver les traces de mon passé familial à Bergerac, où ma mère juive a été cachée pendant l'occupation, à Verrières-du-Lac, où mes parents ont été heureux dans les années 60, ça n'a pas duré très longtemps, et je me souviens de photos qui me permettent de reconnaître les lieux, parfois à 8h du soir, on ne voit plus rien, les exploitants locaux acceptent de m'accompagner avec une lampe de poche, etc. Et on arrive quand même à voir des bribes de fragments, de fantômes de ce qui a été. Et j'y trouve un plaisir, je dirais pas nostalgique, mais mélancolique.
Il n'y a pas seulement votre histoire familiale qui vous accompagne dans ces voyages, ni le cinéma, ni les films, il y a aussi la littérature, beaucoup de littérature.
Tout à fait, parce qu'il y a les trains aussi. Ouais. Alors il y a les trains, alors c'est pareil, il y a toujours les problèmes de la France d'aujourd'hui, les trains qui marchent pas, les trains qui partent pas, les trains qui arrivent pas à l'heure, etc. Mais ça a un avantage, c'est que ça permet de lire. Donc ça me permet de me plonger dans Julien Gracq, de croiser des gens qui lisent Mauriac, de me plonger dans les chroniques de Léon Daudet qui me font hurler de rire, de relire comme ça beaucoup de choses.
Et de retrouver la carte et le territoire de ces écrivains.
Oui, une sorte de carte du tendre littéraire et cinématographique, mais effectivement... Bizarrement, ce voyage où j'étais un peu une sorte de trublion, où j'étais censé faire l'article pour des films et où j'étais très en représentation, car je suis quelqu'un qui aime se donner en spectacle à tous les niveaux, en même temps m'a amené quand même à un certain voyage intérieur qui me ramène à mes fondamentaux littéraires et aussi quand même à une certaine réflexion sur moi-même. Il se trouve que je dois quand même le préciser que c'était... Ce livre est parti d'un projet que j'avais initialement de faire un livre de promenade où je me serais baladé un peu au hasard dans Paris. Il en reste quelque chose, le préambule et la conclusion du livre.
D'autant plus que vous préférez justement déambuler dans les quartiers que vous ne connaissez pas si bien à Paris, qui est quand même votre ville. C'est là où vous vivez, Noël Herpe.
Bah oui, on est toujours ramené à soi-même finalement. Donc voilà, je me balade, je pars le matin. Enfin, il y a deux textes comme ça qui encadrent donc le livre, qui est conçu un peu comme une sorte de retable ou de trilogie. Et je me balade et je vais un peu au hasard. Et comme par hasard, là aussi, je retombe sur des lieux de mon enfance, le Mont-Rouge de ma grand-mère, des endroits comme ça qui sont désenchantés et où j'essaie quand même de retrouver une poésie. Je pense que c'est au fond peut-être un peu ce qui définit mon propos, c'est d'essayer de retrouver une poésie dans le désert.
Dans le regard ou dans l'écriture, dans les deux?
Les deux, l'image et les mots. Quand je me promène, je pense pas que je vais écrire, mais je retrouve quand même... Alors parfois j'écris des choses et je retrouve dans l'écriture des épiphanies que j'ai pas vécues sur le moment. Parfois, je trouve des occasions de me marrer que j'avais pas forcément sur le moment où j'étais plutôt déprimé. Voilà. Donc l'écriture me permet quand même d'injecter de la poésie dans la banalité de ma vie.
Vous vous sentez solitaire, Noël Herpe, dans la société d'aujourd'hui?
Oui, je me sens solitaire pour bien des raisons, mais c'est aussi un journal de deuil parce que je venais de vivre une rupture amoureuse qui évidemment me laissait un peu fantomatique là encore. Oui, je me sens solitaire car j'ai l'impression que mon rapport au cinéma, mon rapport à la fiction est quelque chose que j'ai du mal à partager aujourd'hui, cette croyance à la fiction, au prestige de la fiction, quelque chose auquel je continue à croire malgré tout, et au fond on est dans un monde terriblement réel, de plus en plus réel. Internet nous confronte en permanence à la réalité terrible du monde et à une sorte d'interdit de rêver. Je trouve pas que ce soit tellement l'espace du rêve, Internet. C'est plutôt la réalité qu'on se prend plein de fouet en permanence.
Alors que le cinéma, ça l'a été pour vous, Noël Herpe?
Ça l'a été. Peut-être plus encore que la littérature, d'ailleurs. Oui, j'aime les cinéastes de l'imaginaire, comme Buñuel, comme Hitchcock, Clouseau en est un, évidemment.
Éric Rohmer.
Et c'est bien de parler d'Éric Rohmer, parce qu'il y a ce rapport à la marche. Je cite Le Signe du Lion, qui est un film de marche dans Paris, de délaissement. Il y a souvent de la marche chez Rohmer, dans Le Rayon Vert. Personnage qui marche pour retrouver un peu une foi en eux-mêmes. Oui, il y a vraiment cette dimension, quand même, d'essayer de trouver un mouvement, malgré toutes les raisons qu'on aurait de désespérer. Et je crois pas du tout que ce soit un livre de désespoir, au contraire.
Danse avec moi, brisons-nous tous les deux, et de l'instant merveilleux, fermons les yeux. Danse avec moi, profitons de l'accord qui fait vibrer nos corps. Dansons encore.
Et ce matin, je suis avec Noël Herpe à l'occasion de la sortie de son livre Souvenir écran, voyage en France 2017-2018, édité par Bartilla. Et bien entendu, vous avez reconnu cette chanson, Noël Herpe.
Ah, Suzy Dolaire, l'idole de mon enfance, toujours là d'ailleurs, que j'ai d'ailleurs été visiter pour l'expo Clouseau. Elle m'a reçu très gentiment chez elle il n'y a pas si longtemps, et elle m'a chanté la chanson culte de Quai des Orfèvres avec son tralala. Oui, c'est bon. Bon voilà, je sais pas. C'est sûr que j'ai toujours eu un goût pour les actrices de cette époque. Je ne saurais m'en cacher de ces femmes de cinéma qui avaient à la fois un prestige, en même temps un franc parler, une liberté. Pas du tout. Me Too n'a rien inventé finalement. Suzy Dolaire dans Quai des Orfèvres, elle dit son fait aux hommes. Elle est et avec beaucoup de franchise. Clouseau a un côté d'ailleurs assez, je dirais pas féministe, mais il aime les femmes et il montre souvent des femmes qui refusent de céder aux désirs des hommes et qui refusent de céder aux hommes qui abusent de leur pouvoir. Une grande liberté, une grande revendication d'indépendance chez les femmes de Clouseau. Et ça, j'en ai souvent parlé. C'est aussi de ça que je parle dans ce livre. C'est-à-dire comment arriver à intéresser un public contemporain à des cinéastes comme Clouseau à travers des thèmes d'aujourd'hui. Je pense qu'essayer de jeter des ponts, là encore, entre le passé et le présent.
Et qui est le public de ces villes visitées? Alors, c'est en chapitre consacré à des lieux de France, ce livre, de vos voyages en France en tant qu'animateur, donc de ces projections autour des films de Clouseau, notamment. Vous êtes passé par Tremblay en France, par Niort, par Limoges, par Bergerac, par Aix-les-Bains, par Aix-en-Provence, Amiens, Cotignac, enfin tout, Nantes, les petites villes, la campagne, les quartiers, la France périurbaine, comme on dit.
Un inventaire à la Prévert.
Ouais.
Ou à la Pérec.
Ou surtout à la Houellebecq.
Et à la Houellebecq, absolument. Moi, j'ai pas voulu faire un livre de sociologie, mais je crois que forcément j'ai vu des choses de cette France comme ça, un peu tristounette dont je parlais. C'est drôle parce qu'en même temps, je me suis mis dans les pas d'un personnage. Il se trouve que bon, j'ai en même temps une activité de cinéaste et il se trouve que j'avais fait dans une trilogie de courts métrages qui sort ces jours-ci, La Fantasme et Fantôme. J'avais joué le rôle dans le premier sketch, la première pièce tirée de Courteline, le personnage d'un acteur dans un café de banlieue qui fait l'article à des clients improbables pour raconter ses succès imaginaires.
Et tout ça, c'est réalisé avec des bouts de ficelle, hein, c'est-à-dire avec une carte postale comme décor.
Absolument, et un très bon directeur artistique, Cyril Duret, qui m'avait donné cette idée de la carte postale, à la Jean-Christophe Averty, bien sûr, que j'ai rencontré à l'époque. Et c'est vrai que c'est une référence que j'ai eu plaisir à réinvestir. Bon, ben voilà, et donc ça m'a amusé de me remettre dans les pas de ce personnage, de l'acteur un peu miteux, qui se balade un peu comme ça au milieu de nulle part. D'ailleurs, le personnage de la pièce de Courteline, Menton Bleu, va à Montmorillon et s'extasie sur le fait que tout Montmorillon était là. Alors dans mon cas, tout Montmorillon n'était pas là. Je me suis un peu consolé en buvant un peu trop de champagne. Mais j'aime cette idée de me remettre dans les pas d'un personnage de théâtre, d'être en fait l'acteur de ma propre vie et d'être en situation avec les autres. Parce que les livres que je faisais avant étaient très introspectifs, quand même très tournés vers moi. Et là, j'essaie quand même de m'ouvrir aux autres et de partager.
Et pour dire quoi,
Noël
Herp? Parce que moi, j'ai lu votre livre Souvenir écran comme si c'était la carte et le territoire de Houellebecq, mais sauf que Houellebecq, il faisait ce tour de France pour montrer à quel point la France se désindustrialise, alors que vous le faites peut-être pour nous dire à quel point le cinéma ou la cinéphilie se meurt, et que vous allez à la rencontre des derniers fantômes de la cinéphilie dans des salles plus ou moins vides, il faut le dire, non, Noël Herp?
Oui, la cinéphilie se meurt, ça c'est certain. Je suis pas le premier à le dire. Hein. Je pense que Serge Danet et d'autres l'ont dit bien avant moi. Mais c'est peut-être quelque chose de plus large que ça, quand même. C'est une certaine croyance, une certaine... ce qui me frappe beaucoup, quand même, en baladant en France, à quel point les gens sont quand même un peu désabusés. Sont critiques tout, sont quand même critiques le voisin. J'ai souvent pensé que la passion française, c'était la jalousie. Hein. On adore jalouser les autres. D'ailleurs, c'est le thème du théâtre français, mais c'est aussi le thème très souvent des conversations. On parle des polémiques du jour. Alors effectivement, on parle de MeToo, on parle des migrants, etc. Mais c'est très souvent dans un esprit de dénigrement. Enfin, je cherche comme ça, au milieu de cette désillusion générale, quand même, des raisons de croire à quelque chose. Donc c'est pas simplement la cinéphilie, je pense que c'est...
Et cette désillusion que vous remarquez, que vous faites ressortir à travers votre écriture, Noël Herp, vous avez réussi à l'analyser, à lui trouver des réponses ou du moins des...
C'est intéressant parce que ça a des raisons... Je dirais à la fois politique, économique bien sûr, mais je suis pas très content quand les gens me disent oh là là, les gens sont malheureux parce que voilà, ils gagnent très peu d'argent, etc. Bon, il y a ça évidemment, il y a un contexte économique qui est terrible, mais il y a aussi, me semble-t-il, une crise, quelque chose de politique et de psychanalytique, c'est-à-dire que la France est un pays qui se console plus finalement d'avoir perdu son prestige, qui n'a pas non plus fait la psychanalyse de ses démons politiques et historiques. Et de toute manière, ça nous ramène à Clouzot, hein. Très souvent dans ces débats, les gens me disent mais la collaboration, etc. C'est un pays où il y a beaucoup de cadavres dans le placard, la France, et on les a pas vraiment dépoussiérés. Un pays qui meurt d'un inconscient malade, me semble-t-il, d'un inconscient pas vraiment regardé en face, ce qui est peut-être pas tout à fait le cas des autres pays européens.
De quoi vous parlez avec les publics de toutes ces villes visitées, Noël Herp? Vous parlez des films projetés ou vous profitez du film projeté, de la rétrospective Clouzot qui vous a fait voyager pour parler d'autre chose, pour parler d'aujourd'hui, pour parler d'eux-mêmes?
J'essaye. Je trouve d'ailleurs des métaphores. Par exemple, quand je parle de diabolique de Clouzot, c'est ça qui est marrant d'ailleurs, quand on trouve tout d'un coup des espèces d'idées qu'on n'avait pas forcément préméditées sur le fait que le cadavre de Paul Meurice dans les diaboliques qui flotte à la surface de la piscine, ou dont on imagine en tout cas qu'il va émerger à la surface de la piscine, ce serait justement cette culpabilité historique impossible à représenter dont je parlais à l'instant. Mais je parle aussi en effet de thèmes contemporains, je l'ai dit, j'essaie de raccrocher Clouzot au présent, mais c'est surtout après, c'est surtout dans les dîners, en fait, et que je parle avec les gens, avec les exploitants, qui se plaignent qu'il n'y a plus beaucoup de monde, que les jeunes... Ce qui revient tout le temps, en fait, et c'est une discussion fréquente, outre les discussions sur des sujets d'actualité, c'est que les jeunes ne viennent plus. Que les jeunes ne viennent plus voir de films, de répertoire, et que finalement, les jeunes s'intéressent quand même moins au cinéma. Est-ce vrai? Je ne sais pas. J'ai quand même un peu... J'ai pas de statistiques à ce sujet, mais je vois ça aussi à travers mes étudiants. Ce qui les fascine aujourd'hui, c'est Black Mirror, c'est Netflix, c'est les séries, beaucoup plus que le cinéma. L'accès facile aux images... devient quand même la source de choix privilégiée. Et je ne sais pas si... Enfin, il en existe encore, bien sûr, mais j'en ai vu, hein, j'en ai rencontré. J'ai rencontré un jeune homme, par exemple, qui avait vu tout, un garçon de 17 ans, qui avait vu tous les Clouseaux, qui connaissait par cœur Miquette et sa mère, qui s'est mis à me parler de Kubrick, d'Orson Welles, etc. Donc ça existe encore. Mais cette espèce de distance dont s'enveloppaient les images animées, ce sentiment que les films étaient rares, qu'il fallait aller les chercher, qu'ils passaient une fois au cinéma de minuit. Moi, je me souviens avoir pleuré toute la nuit parce que mon père m'empêchait de voir l'année dernière Armerian Bad au cinéma de minuit. J'avais 9 ans. Vous voyez, des choses comme ça, ce caractère absolument fascinant d'un objet qui est rare et donc qu'on a envie de voir ressurgir. Évidemment, aujourd'hui, avec cette diffusion des images archi faciles sur Internet, voilà, il y a une espèce de perte d'aura dont Walter Benjamin avait déjà parlé en son temps, mais là qui s'accélère à une vitesse grand V.
Et ça popularise aussi la cinéphilie Internet, non ? Le fait d'avoir accès à tous les films quand on veut ?
Oui, c'est le paradoxe aussi, c'est que pour des fous de cinéma comme moi ou pour des plus jeunes, il y a quand même un accès aux films qu'on n'avait pas. Mais je sais pas. Moi, j'ai vraiment ce souvenir merveilleux quand même. Je me souviens même que quand j'étais lycéen au lycée Henri IV en 1984 ou 82, il y avait un film avec une actrice que j'adorais, Gaby Morlet, et puis la cinémathèque l'avait passé à une heure où j'avais un bac blanc. J'avais appelé la cinémathèque pour leur demander s'ils pouvaient pas changer l'heure de la séance. Vous voyez, c'était des trucs incroyables. Bon, il y avait ce côté, on allait voir des films comme à la messe. Il y avait ce côté encore au fond assez religieux du rapport au cinéma. Et ça, bon, c'est fini.
Je disais en début d'émission, Noël Herpe, que votre souvenir écran, votre livre, donc, de vos voyages en France en 2017 et en 2018, était un peu l'antidote de ce qui se passe en ce moment au Festival de Cannes, parce que vous racontez que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des petits hôtels dans des petites villes, les restaurants qui ferment très tôt, vous n'êtes pas accueilli avec des paillettes, vous qui avez connu les deux mondes, c'est-à-dire le Festival de Cannes, et puis cette cinéphilie plus discrète mais plus profonde. Qu'est-ce que ça vous inspire justement de passer d'un monde où on célèbre le cinéma dans le faste à celui-ci plus intime et du coup plus pauvre, on peut le dire, on peut employer ce mot.
Bah, il y a une poésie de la pauvreté. Je pense pas que j'aurais pu écrire un livre comme ça sur le Festival de Cannes. Je l'ai fait d'ailleurs un peu, hein. Je me souviens, à l'époque où j'étais conseiller de Géliacob, j'avais fait un texte assez long dans une revue qui s'appelait La Lettre du Cinéma, que publiait POL, qui s'appelait Mon rythme de croisette. Et en plus, j'étais amoureux, sans espoir à ce moment-là, donc j'étais très malheureux. Et puis, je me traînais, là aussi, il y avait un côté fantôme déjà, hein. Je me traînais un peu en picolant, d'autant plus que le long de la croisette, parce que j'avais ce statut particulier que je voyais tous les films avant le festival. Donc pendant le festival, je m'emmerdais un peu parce que les films, je les avais déjà vus. Donc je voyais, donc je traînais un peu dans les bars et je voyais revenir vers moi les journalistes patentés qui me disaient, ah ben là, ce film dont que tu nous as tant vanté, que tu as vu en sélection, c'est pas si bien, etc. Donc j'étais toujours un peu à côté de ça. J'ai toujours eu ce statut, finalement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les étiquettes, qui n'aime pas m'enfermer dans un rôle social. J'ai été à la fois journaliste, comédien, homme de cinéma, écrivain, etc. J'ai même fait de la radio. J'ai toujours été un peu à côté des choses. Et là, ce livre me permettait ça encore plus. Peut-être parce que, voilà, effectivement, les enjeux sont pas ceux d'un festival comme Cannes. Il y a quelque chose d'un peu dérisoire. Bon, ça me ramène aussi à un certain paysage littéraire qui est celui d'écrivains que j'ai toujours aimés, comme Jouhandeau, comme Bernanos, comme Mauriac. Il y a des moments comme ça où je me retrouve un peu dans une page de Bernanos, des crépuscules comme ça sur la campagne, des moments... Ça m'apporte au fond, c'est ce qui est pour moi malgré tout l'horizon de la littérature, c'est la confrontation au passé. Je crois qu'il n'est de littérature que dans la rencontre avec le passé. Ça ne veut pas dire que ça doit être la momification du passé, le fétichisme du passé, mais je pense que c'est... La littérature, c'est quand même ça, c'est arriver à faire revivre des émotions anciennes et à leur redonner leur fraîcheur première. J'aurais pas pu faire ça avec le Festival de Cannes.
Et les salles de cinéma, ces salles de cinéma que vous connaissez si bien à travers la France, Noël Herpe, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous ? les derniers vestiges du XXe siècle qui vont sans doute disparaître, ou vous pensez que ces salles vont se transformer et s'adapter aux nouvelles technologies?
C'est compliqué parce que les films, on les voit plus qu'en DCP. Quand on fait on organise des événements Facebook, on croit qu'il va y avoir du monde et puis finalement il y a personne. Parfois, il y a le Rotary Club de la ville qui a organisé un débat sur l'AVC en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Ou alors une projection d'un film de Ken Loach. Très souvent, ils n'ont pas forcément prévu le coup. Moi, je m'énerve souvent aussi. Sur le moment, je m'énerve parce qu'il y a pas de champagne. Je m'énerve parce que je suis pas reçu avec tous les égards dus à mon nom, mais je crois aussi je me montre un peu comme un personnage ridicule, comme un Don Quichotte complètement égaré dans ce monde où il n'a plus sa place.
Avec sa valise à roulettes
qui se casse la gueule, qui parfois pendant les conférences se trompe et perd le fil de son propos, qui s'engueule avec les gens parce que les gens, quand vous parlez du mystère Picasso, c'est terrible par exemple, parce que les gens sont assez respectueux de votre expertise en histoire du cinéma, mais dès que vous vous mettez à parler de peinture ou d'art, là tout d'un coup ils croient être spécialistes, donc là il y a des débats sur l'expressionnisme, sur Picasso, etc., où je bats prudemment en retraite car je n'y connais pas grand chose. Donc il y a ce sentiment toujours d'être de n'avoir pas rien à faire là, mais d'être dans un costume trop grand pour moi, peut-être, qui ne correspond plus à grand chose. Alors maintenant, il y a des belles rencontres. Je pense que le livre, il a un côté satirique et drôlatique, mais il y a aussi des très belles rencontres. Il y a même des moments où je tombe amoureux. Des rencontres qui ne se font pas toujours. Je crois, c'est pour ça que ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, la solitude. Il y a quand même l'envie du contact, l'envie du lien avec l'autre. Et cette envie, elle est souvent déçue, parce que souvent les gens ne parlent que d'eux, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils sont blasés, et parfois pas, parfois il y a des très très belles rencontres.
Pourquoi vous écrivez des livres, Noël Herpe, et pourquoi vous tournez et vous réalisez des films ?
C'est pas la même chose. Je fais des films pour explorer mes fantasmes, pour exprimer ces représentations qui m'ont fasciné dans mon enfance, ces représentations souvent liées au théâtre, puisque je fais des films comme Fantasmes et Fantômes qui sont liés au théâtre.
Disponible en DVD d'ailleurs.
Voilà, chez Tamasa. Voilà, pour répéter des émotions de mon enfance, mais peut-être d'une manière un peu plus comme un musée de mes émotions. Alors que quand j'écris, il y a quelque chose qui est plus contemporain, me semble-t-il, dans mon écriture, et où j'essaie quand même de sortir de mon univers intérieur, de mon univers mental, pour aller vers les autres. C'est pas tout à fait le même mouvement. Je dirais que le cinéma serait plutôt de l'ordre du paraître et la littérature de l'ordre d'une recherche de l'être. C'est, si on devait simplifier les choses comme ça. Mais la littérature m'entraîne vers quelque chose qui me surprend peut-être davantage. Le cinéma, c'est un art de préméditation. Vous devez répéter, contrôler, construire, préméditer. Je tourne en plus généralement des films en huis clos, en studio, chez moi, dans mon petit atelier de la rue Saint-Ambroise. Donc voilà, il faut découper tout ça. Ça amène à quand même, c'est plus difficile pour moi d'accueillir l'imprévu. Alors que quand j'écris, j'aime me faire des surprises. Et d'ailleurs, le livre se commence comme ça. C'est une citation de Mauriac, en fait. J'ai marché au hasard. C'est la femme Thérèse Esquerou. La part du hasard me fascine. Et ça, c'est l'écriture qui me l'apporte.
Même si vous retravaillez, je suppose, votre écriture, vos livres, Noël Herpe.
Oui, je retravaille, mais pas trop. Parce que c'est quand même du journal, en fait, ou de la chronique. Donc j'écris assez vite. J'ai une certaine discipline d'écriture. Je travaille le matin. Généralement, si j'ai pas fait deux feuillets le matin, je suis pas content du tout de moi. Donc je fais mes deux feuillets. Et puis, en effet, je les relis, je les arrange. Et puis voilà, mais ensuite, je n'y touche pas, parce que c'est pour moi comme des instantanés. Et je pense qu'il faut respecter aussi ce qui s'est passé. Il ne faut pas essayer. Il y a des gens qui publient leur journal et qui le réécrivent après coup. Moi, pour moi, c'est une hérésie totale. Il y a quand même cette volonté de témoigner de ce qui s'est passé dans l'instant. Et au fond, je dirais d'une musique de l'instant. Chaque rencontre est porteuse d'une musique. Il y a des mouvements lents, il y a des mouvements rapides, il y a des textes qui sont très rapides, d'autres plus délayés. Et j'essaie d'être attentif à cette musique secrète de l'événement ou de la rencontre. C'est-à-dire, je pense que finalement, tout ce qui nous arrive dans notre vie, il y a un texte caché. Il y a quelque chose derrière derrière les apparences, il y a un sens caché à tout ça. Et j'essaie de le décrypter, mais sans trop le forcer non plus, parce qu'il ne faut pas trop solliciter le sens si on veut qu'il se révèle.
Voilà, le tour de France de salles de cinéma, d'art et d'essai en cinémathèque de Noël Herpe est à retrouver dans cet ouvrage édité par Bartia. Souvenir écran, voyage en France 2017-2018. Merci Noël Herpe d'être passé ce matin.
Merci.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
On n'a jamais un rond, on sèche les trois quarts des cours, on n'aura jamais le bac.
France Culture passe le bac, Tiffaine de Roquigny.
Cette semaine, le studio se transforme en salle de classe et nous accueillons la crème des professeurs de lycée pour réviser les grands thèmes de l'économie. Peut-on concilier croissance et environnement? À qui profite l'internationalisation des échanges? Et comment lutter contre le chômage? Que vous soyez lycéen ou nostalgique du bachot, à vos stylos, l'épreuve va commencer, vous avez une heure.
Entendez-vous l'écho à l'heure du bac, de lundi à jeudi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. En ce lundi matin, nous entrons dans la dernière semaine de campagne avant les élections européennes. En Autriche, ce week-end, la coalition droite-extrême droite a explosé avant ce scrutin. Et ce, après un scandale lié au vice-chancelier, nous irons à Vienne dans un instant. Vous entendrez ensuite les arguments des uns et des autres sur l'affaire Vincent Lambert, du nom de ce patient tétraplégique en état végétatif à Reims. Les traitements pourraient s'arrêter cette semaine. Ses parents évoquent de nouveaux recours. Et puis, qu'est-ce qui attend Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine? Il prendra ses fonctions officiellement ce matin, malgré les réticences du Parlement ukrainien. Et l'on commence donc par la coalition autrichienne entre la droite et l'extrême droite. Elle a volé en éclats ce week-end après un an et demi au pouvoir. Le chef de l'extrême droite, Heinz Christian Strache, a démissionné. Une vidéo compromettante le liant à un homme d'affaires russe l'a poussé à quitter son poste de vice-chancelier. Et puis dans la foulée, le chancelier conservateur Sébastien Kurz a annoncé des législatives anticipées, Isorias.
Les élections législatives anticipées pourraient se tenir dès début septembre. C'est en tout cas le souhait du président autrichien Alexander Van der Bellen, qui s'est exprimé hier après un entretien avec le chancelier conservateur Sébastien Kurz. En revanche, on n'en sait pas plus pour le moment sur le gouvernement qui assurera la transition jusqu'à la tenue de ces élections. Pour tenter d'y voir plus clair, Sébastien Kurz devrait rencontrer dans les jours à venir les chefs des différents partis politiques. L'opposition a déjà fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que les ministres actuel du FPE reste dans ce gouvernement de transition. Elle préfère qu'il soit remplacé par des experts. Ce qui est sûr, c'est que le FPE ressort affaibli de toute cette affaire à quelques jours des élections européennes. Le parti a perdu son chef, Heinz Christian Strache. Il dirigeait le FPE depuis 2005, mais a dû déléguer cette fonction à Norbert Hofer. Difficile de faire autrement après la diffusion de cette vidéo accablante pour lui, dans laquelle on le voit, entre autres, promettre à une prétendue nièce d'oligarque russe l'attribution de marchés publics en échange d'un soutien financier au parti.
Isorias depuis Vienne pour France Culture, une affaire qui intervient, soulignons-le, à 6 jours des élections européennes. Les européennes et la campagne en France à présent. Ce week-end, La République En Marche a attaqué le Rassemblement National sur le thème des influences étrangères. Ministres et responsables de la majorité ont multiplié hier les critiques contre le RN. RN qu'ils accusent d'être inféodé à Donald Trump, à Vladimir Poutine, voire d'être dans la roue de l'Italien Matteo Salvini. Nous en venons à cette attente qui débute ce lundi. Les traitements de Vincent Lambert pourraient s'arrêter cette semaine après validation du Conseil d'État. Les parents de Vincent Lambert, tétraplégique et en état végétatif depuis 10 ans, ses parents continuent toutefois de se battre. Ils dénoncent une euthanasie déguisée. Et dans leur viseur maintenant, le médecin de leur fils, le docteur Vincent Sanchez, chef du service des soins palliatifs à l'hôpital de Reims. Écoutez à ce propos maître Jean Payot, l'avocat des parents, parlant donc du docteur Sanchez.
C'est lui qui va exécuter cette décision d'arrêt de traitement, comme il l'a dit, à partir de ce 20 mai 2019. Or, sa décision, si elle a été validée par les juridictions nationales, n'a pas encore été confirmée par les juridictions internationales que nous avons saisies. Sa décision n'est donc pas définitive. Et donc, dès lors qu'il y a des mesures provisoires qui s'imposent tant au gouvernement français qu'au docteur Sanchez, celui-ci a l'obligation de les prendre en compte. Par conséquent, si celui-ci exécute malgré tout sa décision, eh bien, il prend le risque que les juridictions pénales qualifient cet acte de tentative d'assassinat.
Et pourtant, le Conseil d'État a bien validé cet arrêt des traitements, arrêt qui s'inscrit dans la droite ligne de la loi Claeys-Leonetti. Vincent Morel est spécialiste soins palliatifs au CHU de Rouen et il l'explique.
La loi Claeys-Leonetti n'est pas qu'une loi sur la fin de vie. Elle est d'abord une loi pour tous les malades, pour lutter contre l'acharnement thérapeutique, et s'assurer qu'ils seront bien au cœur des décisions qui les concernent. Dans l'affaire Vincent Lambert, le Conseil d'État a confirmé à deux reprises, à la fois en 2014 et en 2019, que nous nous trouvions bien dans une situation d'obstination déraisonnable. Il est maintenu en vie simplement par une hydratation et une nutrition artificielle. Et aux deux reprises, ils ont également confirmé la volonté indirectement exprimée par M. Lambert de ne pas vivre une telle situation.
Des propos recueillis par Daniel Messager. Les blocages débutent en ce moment même. Blocages et manifestations de chauffeurs de taxi, d'auto-écoles et d'ambulanciers à Paris, mais également à Strasbourg, Toulouse ou Dijon. Ils se mobilisent à l'appel de 4 syndicats et une association. Et les motifs sont variés, Guillaume Gavenne.
Tous se disent mobilisés contre l'ubérisation. Même si leurs revendications n'ont rien à voir, c'est bien l'avenir de leur métier qui est menacé selon eux. Les taxis sont les plus remontés contre la future loi LOM, loi d'orientation des mobilités. Selon les syndicats, le texte rompt le fragile équilibre trouvé par la précédente loi, équilibre entre taxis et VTC, les Uber, Hitch et autres captains. Dans leur collimateur, des dispositions ambiguës qui permettraient de faire circuler les VTC sur des voies réservées ou qui les autoriseraient à stationner sur la voie publique. Un casus belli selon la CGT Taxi, une contre-vérité selon la ministre des Transports. N'empêche, il aura fallu le vote d'un amendement en commission en fin de semaine dernière pour lever l'ambiguïté. Les auto-écoles, elles, en sont leur quatrième journée de mobilisation depuis février, toujours contre les pistes du gouvernement qui veut faire baisser le prix du permis. Ça se fera, disent-elles, au détriment de la formation. Pas besoin de personnel pour des cours en ligne ou le simulateur.
La fin du vote en Inde. Les législatives auront duré 6 semaines pour 900 millions d'électeurs. Le Premier ministre sortant, Narendra Modi, pourrait en sortir vainqueur, mais sans majorité absolue a priori. Au Soudan, après plusieurs jours d'interruption, le dialogue a repris hier entre les militaires et les responsables de la contestation populaire. L'armée réclamait jusque-là la levée des barrages dans la capitale Khartoum. Les deux parties doivent maintenant s'accorder sur la composition d'un futur conseil souverain de transition. Les chefs de file de la contestation veulent qu'un civil dirige cette institution. Lui dirigera l'Ukraine après avoir remporté la présidentielle. Volodymyr Zelensky sera ce matin officiellement intronisé président. Mais un mois après son élection triomphale, l'ancien comédien se heurte déjà au Parlement national en Ukraine. Il est composé en majorité de la classe politique dont Zelensky dit vouloir se débarrasser. Le jour de son installation, par exemple, a fait l'objet d'interminables négociations avec le pouvoir législatif. Au point qu'une dissolution de la Rada, l'Assemblée ukrainienne, n'est plus à exclure, Claude Broyon.
La date de prestation de serment de Volodymyr Zelensky n'est pas la seule illustration du bras de fer engagé entre le nouveau président élu et l'Assemblée ukrainienne. La désignation du chef du gouvernement et celle des ministres risquent de prolonger cette situation. En effet, d'après la constitution du pays, c'est le Parlement qui procède à cette démarche. À deux exceptions près toutefois, les portefeuilles très importants dans le contexte de confrontation avec la Russie, des affaires étrangères et de la défense. Dans ces deux cas, Volodymyr Zelensky peut soumettre ses choix à l'Assemblée. Le pari du nouveau président réside maintenant dans le fait que le Parlement ne pourra pas dégager une majorité dans les 30 jours qui lui sont désormais impartis pour le faire. À partir de là, Volodymyr Zelensky aura le champ libre entre soit dissoudre l'Assemblée et espérer surfer sur son score présidentiel pour gagner des législatives anticipées, soit plus improbable, mener d'habiles tractations pour s'attacher le soutien d'une majorité reconstituée à ses côtés.
Claude Brouillot, le correspondant de France Culture dans la région. Ils vont pouvoir sortir temporairement de prison. Les indépendantistes catalans, élus lors des dernières législatives espagnoles, assisteront aujourd'hui à l'ouverture du Parlement. Ils sont en détention provisoire depuis le référendum d'autodétermination de la Catalogne à l'automne 2017. L'Espagne, où se déroulera en même temps que les européennes ce dimanche, les élections municipales. À Barcelone, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre français, est toujours candidat. Et il est toujours mal placé dans les sondages, quatrième selon les dernières études. Sa campagne sur la sécurité ne semble pas convaincre Mélanie Nunes.
Dans un quartier huppé de Barcelone, des affiches de Manuel Valls placardées. C'est ici que vivent les électeurs de classe moyenne catalane qu'il voudrait séduire. Et pourtant, ils sont nombreux, comme Jaume, à douter de la candidature de l'ancien Premier ministre français.
C'est quelqu'un qui a été parachuté J'en suis sûr qu'il connaît très bien la France, mais j'ai m'en doute qu'il connaisse quelle est la réalité de Barcelone.
Quand il parle d'insécurité, par exemple.
Bon, Barcelone, c'est une ville qui n'a pas de problème d'insécurité.
Un programme loin des réalités où le logement et le travail sont des priorités, rappelle Raquel et Flora, sa fille.
L'éducation et la santé ne font pas partie de ces propositions pour les citoyens. Une personne qui vient d'ailleurs et qui nous dit ce qu'on doit faire à Barcelone, c'est non.
Manuel Valls doit aussi composer avec les indépendantistes, lui qui s'oppose à l'autonomie de la région. Josep lui adresse un message.
Retourne en France et règle les problèmes de la France. Tu n'y arriveras pas ici. Les Français n'en veulent pas, pourquoi nous en voudrions? Cet homme s'est trompé, il est venu jouer du pipeau. Il n'en a rien à faire de la Catalogne.
Et malgré les mauvais sondages qui prédisent une défaite, Manuel Valls l'affirme, sa vie politique est bel et bien en Espagne, quel que soit le résultat.
Retour en France avec le temps de ce lundi. Il sera globalement instable sur l'Hexagone entre averses et éclaircies, de l'orage même cet après-midi de l'Île-de-France jusqu'au centre Val-de-Loire et sur l'Occitanie. Comptez ce matin 13 degrés à Clermont-Ferrand et à Lille, 15 à Paris et Lyon, 16 à Strasbourg et Bordeaux, 18 degrés à Perpignan. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées à 6h40 sur France Culture et à 6 jours du scrutin européen. Vous vous penchez Jacques sur les campagnes européennes en dehors de la France. Mmh. État des lieux avec vous. En Allemagne, en Slovaquie, Hongrie, Pologne et au Royaume-Uni.
Oui, en Allemagne, une quarantaine de partis se présentent aux élections du 26 mai dont de nombreux petits, voire microscopiques. Il y a 5 ans, il n'était que 25 à aligner leurs candidats. Comme le rappelle Matthias Bartsch dans un article du Spiegel publié par Courrier International, il n'y a pas de seuil minimal requis pour prétendre aux subsides européens, contrairement aux élections fédérales et régionales, où la barrière des 5% des voix se justifie par la nécessité de former une majorité de gouvernement. L'enjeu pour les petites formations, outre la publicité apportée par la campagne, c'est la manne financière de l'Union européenne. Aux 8 757 euros mensuels d'un salaire de député européen s'ajoute en effet une somme forfaitaire non imposable de 4 513 euros par mois, ainsi que 320 euros par journée de présence au Parlement, sans oublier que chaque député peut librement employer des amis, membres de la famille ou autres relations, à raison de 24 943 euros par mois. C'est ainsi qu'en 2014, le NPD, parti néo-nazi, est entré au Parlement européen, inspirant aujourd'hui certains mouvements concurrents regroupant des individus que la justice considère, je cite, comme d'incurables néo-nazis, tels que la droite ou la troisième voie. Par contre, le financement de l'État est conditionné par le seuil des 0,5% des voix et la multiplication des listes devrait accentuer la dispersion des suffrages et donc raréfier cette ressource. On compte par exemple 4 partis différents de défense de la cause animale. L'hebdomadaire slovaque Tichnen s'inquiète de la perspective de voir entrer le parti néo-nazi Notre Slovaquie au Parlement européen. Une perspective d'autant plus probable dans un pays où le taux d'abstention, 87%, a été le plus important de toute l'Union européenne en 2014 et que ce parti est la deuxième force politique en Slovaquie avec près de 14% d'intention de vote. Deux journalistes ont suivi un meeting de son fureur, Marianne Kotleba, qui s'affiche volontiers en chemise brune, et il relaie l'invraisemblable litanie de contre-vérités ou de mensonges éhontés jouant sur la peur, la haine et le rejet de l'Europe, un réquisitoire contre les libéraux, les médias, les minorités, les juifs et enfin tous ceux qu'il critique. Je cite une seule phrase, le reste est à l'avenant. Les villes sont en feu, les églises sont en feu, même Notre-Dame à Paris a brûlé. Conclusion, nous pourrions balayer tout cela d'un revers de main. Le problème est que les gens prêtent une oreille attentive à ce discours. Si des néo-nazis au crâne rasé étaient présents dans le public, il y avait aussi beaucoup de retraités, d'étudiants ou de simples gens, certains même avec des enfants. Le pays vient d'élire, faut le souligner, sa première présidente, Susana Kaputova, très pro-européenne, sur un programme en 4 points, l'état de droit, la lutte contre la corruption, l'écologie et l'amélioration des services publics. Dans la très catholique Pologne, relève Anne Dastakian de l'hebdomadaire Marianne, le slogan du parti droit droit et justice au pouvoir, plutôt eurosceptique, et curieusement la Pologne au cœur de l'Europe. Mais en Hongrie, où seulement 3% des jeunes adultes catholiques disent aller à la messe, le Fidesz d'Orban a pour devise « Nous sauverons l'Europe chrétienne contre la contamination multiculturelle voulue par l'Union européenne ». Sa campagne, illustrée par les visages grimaçants de George Soros et Jean-Claude Juncker, lui a valu d'être suspendu du Parti populaire européen, le PPE, jusqu'à nouvel ordre. Viktor Orban s'est proclamé le champion de la nouvelle Europe contre l'immigration et les quotas de réfugiés, un souverainisme de la forteresse assiégée en Hongrie et en Pologne, où pourtant aucun migrant n'a jamais voulu s'installer et qui s'accompagne d'un renoncement à la démocratie, observe l'historien Paul Gradvaux, spécialiste de ces deux pays, où le régime grignote l'indépendance de la justice, les droits des femmes et des homosexuels, les universités, les classes intellectuelles, et rejette l'esprit critique de façon structurelle. Mais, comme ailleurs en Europe, cette droite ultranationaliste peine à trouver des terrains d'entente en dehors des effets d'annonce. C'est particulièrement vrai sur les relations avec la Russie de Poutine, où la Pologne et la Hongrie divergent totalement. Au Royaume-Uni se déroule la campagne des européennes la plus dingue, résume Pascal Richer sur le site de l'Obs. Un électeur sur trois s'apprêterait à voter pour le parti Brexit de Nigel Farage, ex-UKIP. Alors que le nombre d'opposants au Brexit ne cesse d'augmenter, 51 contre 42, les deux partis traditionnels, travaillistes et conservateurs, sont noyés par leur clivage interne qui rendent toute campagne impossible. Ils se retrouvent respectivement à 15 et 9% des intentions de vote. Comme disent nos voisins, Jeremy Corbyn reste assis sur la clôture avec un mot d'ordre improbable pour le Labour, le seul parti capable de rassembler les partisans du Leave et ceux du Remain. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et on reste en Europe, puisque au sommaire donc des enjeux internationaux, vous parlerez de l'éclatement de la coalition avec l'extrême droite en Autriche.
C'est ça, avec des législatives anticipées en septembre, on ne sait pas exactement quand, mais au bout de 18 mois, c'est sûr, la coalition autrichienne droite-extrême droite vient d'exploser après la démission du vice-chancelier et chef du parti du FPE d'extrême droite, Heinz Christian Strache, compromis dans une vidéo avec des financiers russes. Coup dur pour le FPE et pour cette coalition perçue par certains comme un modèle de coalition nationaliste parti traditionnel. Alors, quelles conséquences? On voit ça avec vous, Danny Leder, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes correspondant à Paris du quotidien Courir. Alors, le chancelier est tête de parti depuis 2005 qui démissionne. 5 ministres FPE qui menacent aussi d'être éjectés. Le Tageszeitung qui titre sur les nazis dehors. Endspiel dit le site Profil. L'hebdomadaire Courir lui estime, enfin l'hebdomadaire quotidien estime que Strache va certainement entraîner tout le FPE dans sa chute. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est l'avalanche, la réaction en chaîne?
Oui, absolument. Ce qui est crucial et ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que non seulement Strache a été pris sur le fait en étant disposé à quasiment à vendre l'infrastructure autrichienne à un oligarque russe, à son émissaire, sa soi-disant nièce, contre un soutien illégal pour son parti, mais surtout, et c'est ce qui joue beaucoup en Autriche et qu'on sous-estime sûrement à l'étranger, c'est que du même coup, il a demandé que ce même oligarque entre dans le capital, prenne la main dans le principal quotidien autrichien. Alors il faut faire une petite parenthèse là-dessus. On a en Autriche un tabloïd qui dispose d'une puissance inouïe. Il dispose de plus de 2 millions de lecteurs sur 8 millions d'habitants. Et c'est un tabloïd qui était en général relativement favorable à la droite xénophobe, qui menait lui-même des campagnes populistes. Et du fait que Strache, lors de cet entretien qui a été enregistré à Ibiza, a déclaré qu'il était prêt à prendre la main sur ce journal, que, je cite, en général, les journalistes étaient le plus grande pute du monde, hein, je cite, et que donc ce journal et sa ligne éditoriale étaient à acheter, qu'il voulait suivre en cela la prise en main des médias par Viktor Orban en Hongrie. Mmh. Il a Il a insulté ce journal et à travers lui son lectorat populaire qui recoupe pour une bonne part l'électorat de l'extrême droite. Donc il s'est aliéné ce journal qui pour la première fois s'est rebiffé contre lui, qui pour la première fois a fait l'éloge d'une manifestation de la gauche antifasciste contre le gouvernement. Il s'est aliéné ses lecteurs, il s'est mis dans une position impossible. Ça, c'est un point essentiel qui a ébranlé l'édifice de la coalition entre la droite et l'extrême droite en Autriche, et bien sûr aussi, surtout en premier, le parti de l'extrême droite national populiste, le FPE.
Et alors justement, ça, disons l'insulte faite au peuple autrichien et au sentiment, au lecteur de Kronenzeitung, ce fameux journal, ou alors, disons, les manœuvres que suggère justement cette vidéo, donc tournée à Ibiza à l'été 2017, 3 mois avant les élections fédérales, donc qui ont vu la forte poussée du FPE avec 26%, justement. Là-dedans, dans cette vidéo, il est question de grands investisseurs autrichiens, parmi lesquels Gaston Glock, le fabricant d'armes, ou alors des investisseurs immobiliers qui seraient prêts à financer le FPE pour des baisses d'impôts. En gros, puis il y a ce deal d'urbaniser le paysage médiatique. Est-ce que c'est pas ça qu'on reproche principalement à Strache dans cette affaire ?
Oui, ça c'est un élément bien sûr important. Bon, on n'a pas pu encore vérifier, confirmer ces déclarations de Strache, mais il est évident que parmi les grands industriels, financiers, agents immobiliers autrichiens et également le fameux Gaston Glock qui produit le pistolet bien connu de tous les lecteurs de romans policiers, c'est des supporters, hein. C'est des sympathisants de l'extrême droite, notamment ce Gaston Glock. Bon, ça c'est un élément important, mais on sait qu'une partie essentielle de l'électorat d'extrême droite est assez imperméable à ce type d'accusation. Il mise principalement sur la ligne xénophobe, le rejet de l'immigration, et il passe par perte et profit le fait que leurs leaders prennent de l'argent là où ils le peuvent. Donc ça c'est pas peut-être pas l'essentiel pour le cœur de l'électorat de la droite radicale. Il y a un point que vous avez abordé, vous avez dit, bon, il y a eu une poussée du FPE, de l'extrême droite, avec 26%. Il ne faut pas surestimer cette poussée. Le parti de ce parti était déjà à un niveau plus haut, plus élevé. Et là, juste avant maintenant que le scandale éclate, il était donné à 22%, ce qui est vraiment pas fameux pour les élections européennes et son niveau habituel. Donc il était déjà en régression. Et là, on suppose qu'il va subir au moins la perte d'un tiers de son électorat, qui va probablement migrer soit vers l'abstention, soit vers le parti conservateur du chancelier Kurz, qui dans un premier temps sera le grand vainqueur de l'éclatement de la coalition.
Alors justement, ça fait deux choses pour l'avenir politique en Autriche. D'abord, vous diriez donc que le FPE risque un coup aussi dur qu'en 2005. 2005, c'était la scission d'avec Jörg Haider, avec donc, je le dis, la 5 ministres qui pourraient démissionner, dont Norbert Hofer, ministre des Transports, dont Herbert Kickl, ministre de l'Intérieur également. Et pour le VP, finalement, le parti de droite traditionnel, celui de Kurz, ce serait une opportunité alors ?
Dans un premier temps, Sébastien Kurz, le chancelier, celui qui a initié la coalition avec la droite radicale, mais qui lui-même dirige le parti conservateur, un parti conservateur qu'il a rénové en le poussant vers la droite et en le rajeunissant. Dans un premier temps, il est sûrement vainqueur. Il a fait la seule chose qui était possible. Il pouvait plus maintenir ce partenaire de coalition. D'ailleurs, dans sa première déclaration de presse, samedi, il a dit « Assez, c'est assez. J'ai dû avaler un tas de couleuvres, des scandales permanents avec des déclarations d'extrême droite, de racistes émanant de ce parti. Là, j'en peux plus. » Il est vainqueur parce que, comme je l'ai dit, une bonne partie de l'électorat de la droite nationale populiste va migrer vers lui. Ils avaient déjà déclaré auparavant lors de sondages, un bon tiers, que les conservateurs étaient également éligibles pour eux, les conservateurs qui sont allés plus à droite. Donc ça, ça c'est évident, il y aura une poussée lors des législatives rapprochées qui auront lieu en septembre.
Donc on lui en tiendra pas rigueur, comme dit la dirigeante du SPE, Pamela Rendi-Wagner, elle dit il porte la responsabilité entière de l'échec de cette expérience, la coalition.
Oui, mais ça c'est plutôt vrai pour la partie importante, hein, je le souligne, de la population qui d'office rejetait cette coalition avec l'extrême droite, hein. Mais ça ne concerne pas, l'électorat, la majorité de l'électorat conservateur et une bonne partie de l'électorat évidemment de l'extrême droite. Mais les problèmes viendront ensuite, puisque l'Autriche, le système électoral, à l'inverse de ce qu'on connaît en France, c'est un système de la proportionnelle intégrale. Donc même, hein, supposons que le chancelier Kurz, avec son parti conservateur, qui a été la dernière fois autour de 30%, là, on le donnait à 34%, disons qu'il arrive même jusqu'à 40%, en Autriche, n'est pas suffisant, en fait, pour gouverner seul. Ça serait un gouvernement minoritaire qui serait à la merci d'alliances changeantes, hein. Donc, c'est là que les problèmes vont se poser. Ensuite, pour former un gouvernement, il peut prendre le risque de, malgré tout, de gouverner seul. Il sera effectivement très vulnérable. Sinon, toutes les options sont ouvertes. Une coalition avec les Verts, une coalition avec les sociaux-démocrates, c'est qui, pour l'instant, l'exclut. Mais bon, tout est à revoir.
Juste en un mot, parce qu'il nous reste moins d'une minute, mais est-ce que le FPE c'est pas aussi discrédité, on en a pas parlé, mais avec cette affaire qui implique la Russie et les liens FPE-Russie?
Oui, absolument. On peut même dire que les liens très étroits avec la Russie, de la part du FPE, ont isolé l'Autriche et le gouvernement au niveau européen, notamment de la part de l'Allemagne, qui a commencé à tiquer, à isoler, par exemple, les services de sécurité autrichiens de renseignement, à geler les relations avec eux, parce qu'il y avait, ces derniers temps, une sorte de porosité, hein, de la part des services de renseignement autrichiens vis-à-vis d'une part de l'ultra-droite et du régime de Poutine. Parce que, justement, le parti de la droite radicale autrichien, à travers son ministre de l'Intérieur, Herbert Kickl, qui d'ailleurs sera maintenant acculé également à la démission en premier, avait la haute main sur ses services de renseignement et avait évincé toutes les autres personnalités antifascistes au sein de ses services même.
Et on aura l'occasion d'en reparler très certainement de ce Herbert Kickl, une affaire qui a été sortie aussi par Spiegel et Süddeutsche Zeitung, de journaux allemands. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Dany Leder, correspondant à Paris du quotidien Courir. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente les Assises internationales du roman à Lyon. Un festival pour fêter la littérature à travers des rencontres et lectures. Écrivains, journalistes, artistes et scientifiques seront présents pour apporter un éclairage original sur des questions littéraires et de société. Dimanche 26 mai, France Culture sera en direct et en public aux Subsistances avec l'Esprit public d'Émilie Aubry à 11h et une soirée spéciale élection européenne à 20h. Les Assises internationales du roman, organisées par la Villa Gilet, aux Subsistances du 20 au 26 mai à Lyon. Un partenariat France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, l'heure des matins avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Mais bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et il fallait que ça arrive.
Et oui, écrire un papier chaque jour, vous savez, ça peut être épuisant. Alors je savais qu'un jour, je n'aurais plus du tout d'inspiration, que cela finirait par la lecture du bottin tchèque. Et ce moment est venu. Alors ce bottin, il m'est tendu par le CSA, puisqu'il s'agit de donner le nom de toutes les listes qui se présentent aux élections européennes, comme l'exige la loi, à l'exception des partis qui ont déjà eu la parole sur l'antenne ou qui vont la voir, parce que, comme vous le savez, les temps de parole diffèrent d'une liste à l'autre. Voilà pourquoi je dois citer toutes les forces en présence, et notamment les Européens Unistes, menés par Jean-Christophe Lagarde, contre le Grand Capital, le Camp des Travailleurs, tête de liste Nathalie Arthaud, Ensemble pour le Frexit, François Asselineau, Alliance Jaune, la révolte par le vote, avec à la tête du mouvement Francis Lalanne, le parti pirate, mené par Florie Marie, l'urgence écologique avec Dominique Bourg en tête de liste, Allons Enfants, la tête de liste, et Sophie Caillot, mouvement pour l'initiative citoyenne, dont la tête de liste est Gilles Elgen, Décroissance 2019, emmené par Thérèse Delfès, le parti révolutionnaire communiste Antonio Sanchez est à sa tête, droite. Le parti animaliste, c'est Hélène Thuy. Les oubliés de l'Europe, artisans, commerçants, professions libérales et indépendants, menés par Olivier Bidou. L'Union démocratique pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors cette fois-ci, la tête de liste est Christian Person. L'évolution citoyenne avec à sa tête Christophe Chalençon. Langue commune équitable pour l'Europe. Et là, la tête de liste se nomme Pierre Dieumegare, à voix égale avec en tête de liste Nathalie Tomasini pour une Europe qui protège les citoyens, avec en tête de liste Yves Guernigon, la liste de la Reconquête, avec en tête de liste Vincent Vauquelin, le parti des citoyens européens. Audric Alexandre mène cette liste, démocratie représentative avec Adama Traoré en tête de liste, une France royale au cœur de l'Europe menée par Robert de Prévoisin, la ligne claire par Renaud Camus, neutre et actif avec en tête de liste Cathy Brobet, et l'Union pour une Europe au service des peuples, et là cette fois-ci c'est mené par Naguib Azergui. Voilà, maintenant que j'ai satisfait aux obligations du CSA, vous allez pouvoir faire votre choix.